Le journal présenté par Mélodie Pépin.
Bonsoir à tous. Socrate disait « Je sais que je ne sais rien ». Emmanuel Macron dit aujourd'hui « Je sais que je ne peux pas tout ». Le président désamorce les critiques en introduction de son discours à Versailles devant presque tous les parlementaires, mais sans jamais remettre en cause son projet pour la France et la cadence des réformes à venir. On fait le point avec Frédéric Seyss. Un procès pas avant 2021 dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Les juges ont rencontré les victimes et familles de victime aujourd'hui pour la troisième fois. Boris Johnson claque la porte du gouvernement britannique, deuxième démission en quelques heures. Sur fond de désaccord sur le Brexit, Theresa May apparaît plus fragilisée que jamais, nous dira Antoine Gignot. Et puis nous irons en Turquie où Recep Tayyip Erdogan a prêté serment aujourd'hui. Un hyper-président qui va avoir pour tâche de sauver le pays de la récession annoncée. Nous verrons cela avec Anand Lower à Istanbul. Ne cherchez pas, en une heure et demie de discours, Emmanuel Macron n'a pas fait d'annonce et ce n'était pas l'exercice. La consigne était de rappeler le cap des réformes aux parlementaires réunis pour la deuxième fois sous les ors de Versailles. Retraite, pauvreté, santé, dépendance, ces réformes seront dévoilées à l'automne. Il s'agit de construire l'État-providence du 21e siècle. Voilà la priorité en 2019. L'acte 2 du quinquennat se veut donc plus social afin de rompre avec l'image du président des riches. Mais avant d'entrer dans le fond du sujet, il a tenu à répondre aux critiques, Frédéric Seyss.
Oui, à ceux qui dénoncent une pratique arrogante du pouvoir et même une dérive monarchique, Emmanuel Macron a répondu dès le début de son discours par ce mot « humilité ».
J'ai dit humble mais résolu. Je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout.
Voilà l'autoportrait d'un président faillible en quelque sorte, mais pas jusqu'à reconnaître de mauvaises décisions, en particulier sur sa politique économique, largement contestée dans les enquêtes d'opinion, dénoncée par l'opposition sur le thème président des riches, critiquée jusque dans la majorité qui demande à ce que l'exécutif muscle sa jambe gauche. Voilà ce que répond le chef de l'État.
La création de richesses, la prospérité d'une nation sont le socle de tout projet de justice et d'équité. Si l'on veut partager le gâteau, la première condition est qu'il y ait un gâteau. Et ce sont les entreprises, ce sont les producteurs qui font ce gâteau et personne d'autre.
Voilà, métaphore pâtissière pour Emmanuel Macron qui voit dans la suppression de l'impôt sur la fortune l'un des ingrédients pour renouer avec la prospérité. Mais la prospérité, pourquoi faire? Le président français a rejeté toute vision purement économique de la société française. Selon lui, cette prospérité doit permettre l'émancipation, libérer le déterminisme du déterminisme social, lutter contre les peurs. Pour atteindre cet objectif, le président a dessiné le menu des mois à venir. Il a cité le projet de loi sur l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage. Il a aussi justifié le report de la présentation du plan pauvreté à la rentrée, plutôt, je cite, que dans la torpeur de l'été.
Frédéric Seyss, et pour répondre directement aux critiques des parlementaires, Emmanuel Macron prévoit d'amender la Constitution pour pouvoir participer dès l'année prochaine aux débats parlementaires qui suivent son allocution. Un discours cet après-midi empreint de référence à l'histoire où les mots sont pesés. Jamais la France n'acceptera des déportations de migrants à travers l'Europe, a affirmé Emmanuel Macron, rappelant que ce sujet ne peut être réglé ni dans l'émotion, ni dans le repli nationaliste. 2 ans et demi après les attentats du 13 novembre, où en est l'enquête ? Les victimes et familles de victimes ont rencontré les juges d'instruction aujourd'hui pour faire le point. Troisième rencontre. Et plus l'enquête avance, plus le dossier s'épaissit. 500 tomes aujourd'hui, Florence Turm.
Face aux victimes, le juge Christophe Tessier a détaillé les charges qui pèsent sur chacun des hommes mis en examen à ce stade. En plus de Salah Abdeslam, le seul survivant des membres du commando, 17 mis en examen, parmi lesquels 6 mandats d'arrêt internationaux. Les derniers sont très récents, délivrés le 28 juin à l'encontre des frères Klein, les voix de la revendication de figures du terrorisme islamiste qui se trouveraient actuellement en Syrie. Et Jean-François Mondaguer, le père de Lamia, tué avec son ami à la terrasse de la Belle Équipe, a aussi retenu cette phrase étonnante de la part d'un magistrat instructeur.
Le juge Tessier dit effectivement qu'il n'y aura pas d'acquittement. Il ne tient pas à ce qu'il y ait d'acquittement. Deux fois, il l'a répété. Ils sont déterminés. Ils ne peuvent pas se permettre de faire un procès qui sera bâclé. Donc ils vont aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire les inculpations seront maximales. Et je crois vraiment en ce travail de la justice. Oui, j'y crois. On va tenir le choc, évidemment. On a un deuil à gérer et je pense pas qu'on puisse faire son deuil. Surtout pour ce genre de disparition, où vous prenez un pot à une terrasse un soir où il fait bon au mois de novembre et vous êtes tué à la Kalachnikov, c'est invraisemblable. C'est presque irréel. Il y a des jours où on se demande si vraiment c'est arrivé. Ça fait 2 ans et demi, mais 2 ans et demi, c'était hier.
Les juges continuent à explorer la piste du financement. On sait que les attentats du 13 novembre ont coûté quelques dizaines de milliers d'euros. La piste des passeurs est celle de l'origine des armes. Ces investigations devront être terminées au plus tard en septembre 2019, mais le procès ne se tiendra pas avant le début de l'année 2021.
Le Brexit fait imploser le gouvernement britannique et met sous pression Theresa May. 2 ministres ont démissionné en quelques heures. David Davis, d'abord le ministre chargé de négocier la sortie de l'UE, suivi aujourd'hui de Boris Johnson, le médiatique ministre des Affaires étrangères, 2e poids lourd, partisan d'une rupture nette avec Bruxelles, Antoine Gignot.
Le Brexit, c'était une chance de faire les choses différemment, explique Boris Johnson. Ce rêve est en train de mourir. Dans sa longue lettre de démission, le désormais ex-ministre des Affaires étrangères le dit, il ne peut pas, en son âme et conscience, adhérer aux propositions de Theresa May. Ses proches citent avec malice la phrase qu'il aurait prononcée à propos du plan de bataille de la première ministre. « It's like polishing a turd », c'est comme si on essayait de faire briller une crotte. Theresa May, elle, se cramponne à son siège, mais pourrait essuyer rapidement un vote de défiance. La procédure pour le déclencher est très codifiée. Il faut que 48 députés conservateurs écrivent une lettre au comité 1922 qui regroupe de grandes figures du parti. Ce sont eux qu'on surnomme les hommes en gris. Ils ont chassé Ian Duncan Smith en 2003 et provoqué la démission de Margaret Thatcher en 1990. Plusieurs conseillers proches de Downing Street le disent. Tout est prêt, le départ de Boris Johnson pourrait marquer le début des hostilités.
Antoine Gignot. Le Cameroun élira son prochain président le 7 octobre. La date a été fixée aujourd'hui. Paul Biya, au pouvoir depuis 35 ans, n'a pas encore indiqué s'il serait candidat à une 7e élection à 85 ans. Sur fond de tensions redoublées dans la partie anglophone du pays, avec des échanges de tirs ce matin à Buea. Lui entame un nouveau mandat. Recep Tayyip Erdogan a prêté serment aujourd'hui. Le président turc en route pour 5 ans de plus au pouvoir après 15 ans de règne. Des pouvoirs élargis, le poste de Premier ministre est supprimé. Il pourra promulguer des décrets. Un hyper-président qui va devoir relever d'importants défis pour le pays ces 5 prochaines années. À Istanbul, Anand Lower.
Premier défi et non des moindres, Recep Tayyip Erdogan doit sauver l'économie turque de la récession annoncée. La monnaie nationale, la livre, ne cesse de perdre de la valeur, le déficit courant se creuse et les prix s'envolent. Le taux d'inflation a dépassé 15% en juin sur un an, un record depuis 2003. Pour les Turcs, la vie est de plus en plus chère et le mécontentement grimpe, même si une majorité d'entre eux fait toujours confiance à Recep Tayyip Erdogan. Dans le nouveau régime présidentiel, le chef de l'État a la haute main sur la politique économique et Tayyip Erdogan n'a plus d'autre choix que de s'attaquer aux problèmes structurels de l'économie turque. La relance est d'autant plus urgente qu'à peine sorti vainqueur des urnes, le chef de l'État turc affrontera bientôt un nouveau rendez-vous électoral, des municipales prévues en mars 2019. Ce scrutin, qui pourrait à son tour être avancé de quelques mois, s'annonce crucial pour l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, qui a certes remporté les dernières législatives, mais avec un score inhabituellement bas et en perdant sa majorité absolue au Parlement. En fait, cela fait des années que la popularité de l'AKP s'érode, notamment chez les jeunes et dans les centres urbains. On l'a vu l'an dernier, lors du référendum sur le régime présidentiel, 60% des jeunes avaient rejeté le texte et dans les 2 plus grandes villes turques, Istanbul et Ankara, le non l'avait emporté. Ces élections locales feront office de nouveaux tests, mais la reconquête de son électorat sera un défi de longue haleine pour Recep Tayyip Erdogan.
Anand Lower, et ce soir, Recep Tayyip Erdogan dévoile son nouveau gouvernement où l'on apprend que son gendre prend le ministère clé des finances. Aux États-Unis, tous les médias sont suspendus à l'annonce de Donald Trump. Tout à l'heure, à 3h, heure française, le président américain doit nommer un juge à la Cour suprême qui tranche les débats de société. Un juge évidemment conservateur, mais à quel degré, c'est l'interrogation. Parmi les favoris, une femme, magistrate aux valeurs religieuses traditionnalistes, opposée à l'avortement et un farouche partisan du port d'armes. Et puis demain, Emmanuel Macron sera à Saint-Pétersbourg pour encourager l'équipe de France de football en demi-finale du mondial face à la Belgique, le président qui avait signifié aux joueurs qu'une compétition réussie, c'est une compétition gagnée. Il pleuvra à Saint-Pétersbourg demain, mais il fera encore beau et chaud dans la plupart des régions françaises. Le soleil continuera de briller un peu partout.